Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Florence Delucie, qui a dirigé l'édition du volume collectif Simone Veil, Sagesse et Grâce violente, aux éditions Bayard. Être enraciné dans l'absence de lieu. Longtemps, Florence Delucie, vous êtes couchée de bonne heure car vous deviez être très tôt le matin dans votre bureau de la Bibliothèque nationale, puis de la Bibliothèque nationale de France, où pendant 40 ans, vous avez été bibliothécaire, puis conservatrice générale au département des manuscrits. C'est-à-dire que vous viviez avec des papiers qui contenaient des trésors, quelquefois ?
Ce n'était que des trésors. Je pense que j'ai eu une chance tout à fait remarquable de pouvoir passer toute ma vie professionnelle au sein de ce département merveilleux, magique, on pourrait dire. Oui, naturellement, dans les antres mystérieux, ce que nous appelons les magasins, côte à côte, dorment ou vivent, selon les manuscrits des plus grands écrivains, pas uniquement français, mais essentiellement français. Alors, j'étais abonnée à la poésie, puisque en 1971, on m'avait demandé de m'occuper de l'exposition du centenaire de la naissance de Paul Valéry. Alors, à partir de ce moment-là, je suis entrée en poésie par cette très, très vaste porte. Ça a été pour moi des moments absolument extraordinaires. Et ensuite, la poésie est venue vers moi, j'allais dire, d'une façon tout à fait naturelle. La plupart des fonds qui sont entrés par la suite le sont entrés à la suite d'incitations du département et de démarches personnelles de ma part.
Vous avez vu entrer de très grandes choses.
Ah oui, oui, les papiers de Jules Supervielle, les papiers de Jean Cassou, oui, naturellement, c'était constant. D'ailleurs, cet enrichissement du département maintenant est fini par poser des problèmes tellement le rythme s'est accru.
Alors, c'est votre rôle au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France qui vous a fait rencontrer un beau jour, au hasard peut-être de l'arrivée d'un certain nombre de papiers, l'œuvre de Simone Veil.
Alors, c'est une très très belle histoire, un hasard magnifique. Tout est venu dans les dernières années de 70 avec une idée remarquable de l'administrateur de l'époque, qu'on appelle maintenant le président, et c'était... Voilà que j'ai déjà oublié son nom, ce qui est tout à fait lamentable. Il avait décidé donc de créer un groupement d'intérêts scientifiques, c'est-à-dire de réunir à la fois les richesses et les trésors de la bibliothèque, dont vous savez que notre maison est remplie à craquer, donc de faire se conjoindre ces trésors et ces richesses avec ceux qui sont susceptibles de les exploiter, à savoir les personnes du CNRS. Donc un groupement d'intérêts scientifiques pour réunir Bibliothèque nationale et chercheurs du CNRS. Donc un certain nombre d'équipes se sont formées. La plupart du temps, il s'agissait de constituer un catalogue de telle ou telle collection ou de tel ou tel trésor, mais pas toujours. Or, il se trouve que André Veil, le frère de Simone Veil, a eu vent de la chose.
Un mathématicien.
Mathématicien, de génie. donc le frère de Simone Veil, a eu vent de la chose, a trouvé que c'était une occasion tout à fait exceptionnelle et il a décidé donc de déposer un simple dépôt à l'époque. Maintenant, les papiers de Simone Veil sont entrés dans le patrimoine de la bibliothèque. Mais il a décidé donc de déposer les papiers de sa sœur dans le but précisément qu'il se construisit une équipe destinée à préparer une édition des œuvres complètes. Il pensait évidemment tout naturellement aux éditions Gallimard. Mais il y avait évidemment d'énormes pas à franchir entre cette décision, un dépôt de manuscrits, la constitution d'une équipe et enfin la possibilité de présenter un plan pour ces œuvres complètes qui devait être quelque chose de très très considérable. Alors donc j'ai été nommée le conservateur en charge, si vous voulez, et il s'est constitué une équipe de chercheurs et de spécialistes autour de M. André Devaux qui de fait présidait cette entreprise. Alors les débuts furent extraordinairement difficiles puisqu'on arrive, ou du moins on part de rien, on part d'un monceau de manuscrits arrivés dans des boîtes à peu près non classées et il a fallu immédiatement essayer de constituer un pré-projet, un premier projet, d'essayer de voir comment on allait pouvoir juguler cette masse gigantesque et essayer d'estimer le nombre de volumes, les caractéristiques de l'édition, etc.
Alors aujourd'hui, ça a été fait puisque l'édition des œuvres complètes est estimée à 16 volumes. Il y en a un certain nombre qui sont déjà publiés, 9.
9 sont déjà publiés. Le 10e devrait paraître à la fin de l'année concernant la Grèce, l'Inde, l'Occitanie, c'est-à-dire que c'est un volume extraordinairement difficile à préparer et très important pour le renouvellement et le rajeunissement, si je puis dire, de l'étude de la pensée de Simone Veil, car beaucoup de choses vont changer à partir de cette publication-là.
Ça peut surprendre, cette masse d'écrits, Florence de Lucy, car on sait que Simone Veil est morte très jeune, à 34 ans, qu'elle a eu de nombreuses activités. Comment a-t-elle pu écrire autant de textes ?
C'est à peine compréhensible. Quelqu'un me faisait remarquer que c'était un petit peu comme pour l'œuvre de Bach. Je crois que si on voulait maintenant recopier toute l'œuvre manuscrite de Bach, il faudrait le double d'années de la vie du maître. Et on se demande, avec Simone Veil, si ce n'est pas un petit peu la même chose. Certes, elle a vécu la plume à la main, elle écrivait tout le temps. Et durant la dernière partie de sa vie, je crois que la plume, elle ne la quittait à peu près jamais, sauf pour quelques heures. Il fallait bien quand même qu'elle s'étende et qu'elle dorme. Elle dormait fort peu. Donc c'était l'écriture, l'écriture, elle est encore l'écriture. Je ne peux pas vous donner de réponse. C'est d'autant plus remarquable que jusque dans les années 37-38, elle a eu une activité syndicale parapolitique, on pourrait dire, est extraordinairement intense et active, avec beaucoup de déplacements, avec des efforts considérables déployés pour convaincre ses amis syndicalistes d'éviter des fractionnements. Enfin, elle a lutté véritablement au jour le jour, en écrivant des papiers, en écrivant des articles. C'était absolument épuisant. Et on ne peut pas dire que durant ses premières années, elle ait énormément écrit. Elle a écrit des choses très, très remarquables, comme en particulier les réflexions sur les causes de la liberté de l'oppression sociale. Elle a écrit ça à 25 ans. Ça n'a pas paru de son vivant. Elle n'a jamais connu l'impression de cet essai très admirable. Mais on peut dire que jusqu'en 37-38, 39, on peut dire même jusqu'à la guerre, elle n'a pas tellement écrit. Mais après, le processus s'est amplifié et quand elle a quitté Marseille, et déjà les derniers mois de son séjour à Marseille ont vu l'éclosion d'un nombre incroyable de textes, plus beaux que les uns que les autres et plus substantiels les uns que les autres. Et je ne vous dis pas de ce qui s'est passé à New York et à Londres. À Londres, ce n'était qu'une plume courant sur le papier, jusqu'à épuisement total d'ailleurs.
Alors aujourd'hui, Florence de Lucy, vous vous occupez de ces œuvres complètes. Vous avez encore du pain sur la planche.
Oui.
Et vous êtes chargée du volume de la collection Quarto, chez Gallimard, consacré à la philosophe.
Oui. Alors ça, c'est un volume qui est venu se surajouter, si vous voulez, à l'effort que nous fournissions en équipe pour les œuvres complètes. À l'intérieur de cette grande maison de Gallimard, vous avez naturellement plusieurs sous-section, si vous voulez. Et Un jour est arrivé donc... une lettre chez moi, me demandant si j'acceptais pour la collection Quarto, qui venait de naître. Je crois qu'elle avait publié 3-4 volumes. On me demandait si j'acceptais de travailler pour ce projet-là. Naturellement, une chose pareille ne se refuse pas, mais enfin, c'était pour moi, si vous voulez, un surcroît de travail énorme, sans compter que pour ce type de publication, l'éditeur vous donne une très petite latitude en nombre de mois. Il a fallu absolument tout faire en 9 mois et pas un jour de plus.
Oui, mais en 9 mois, on peut faire beaucoup de choses. Hein.
Donc, c'était, si vous voulez, quelque chose de... Pour moi, c'est un souvenir à la fois merveilleux et un souvenir d'assez grande souffrance dû à un excès de travail.
Aujourd'hui, vous êtes sans doute l'une des rares personnes à avoir pu lire non seulement toutes les publications de Simone Veil, mais tous les manuscrits également, dont certains sont encore inédits.
Oui, par définition, puisque j'ai été en garde des manuscrits et que je les ai classés. C'était d'ailleurs un problème presque indémêlable. Il fallait à la fois penser à un principe éditorial et agir en conséquence. C'est très difficile, c'est très complexe, et en même temps, classer. C'est-à-dire que vous aviez deux entreprises qui étaient à la fois parallèles, mais qui n'étaient pas les mêmes et qui n'obéissaient pas aux mêmes contraintes. En sorte que, quand j'ai quitté cette Bibliothèque nationale, je n'avais pas tout à fait terminé de classer le fond, mais j'en connais très très bien la substance. Dire qu'il y a énormément d'inédits, non, il n'y en a pas beaucoup. Mais néanmoins, de pouvoir accéder à tout, y compris des cahiers inédits, des cahiers de notes, de lecture, permettait de faire se rejoindre des sources qui paraissaient diverses. Et en fait, on se rend compte qu'il y a de subtiles connexions et qui ont permis précisément de comprendre comment cette pensée, qui avançait à grandes enjambées, comment elle a progressé, selon quel rythme et selon quels axes et selon quel tournant. C'est une pensée en action, une pensée tournée vers un avenir et qui a été écrite dans un état de tension extrême. Donc c'est pour cela que je regrette si fort, si vous voulez, une publication qui a connu un succès phénoménal, La pesanteur et la grâce, parce qu'elle écrase totalement ce genre de notion, à savoir une pensée en marche. Pensée qui se constitue, non pas en système, mais une pensée malgré tout qui s'enrichit, s'approfondit, se structure et réussit finalement dans un espèce d'élan sublime à rejointoyer le tout. Au moment où elle va mourir, enfin quelques semaines avant de mourir, elle atteint des sommets, peut-être m'interrogerez-vous là-dessus tout à l'heure, des sommets absolument extraordinaires.
Donc une pensée d'une remarquable complexité, comme vous le dites dans votre introduction à ce volume.
Très, très, très complexe. Et je crains que quelquefois, à l'occasion d'une idée que l'on se fait d'elle, ou que d'un certain choix idéologique que l'on se fait autour de sa personne, on oublie ou on laisse tomber un certain pan de cette pensée, ou certains propos qui entrent en contradiction avec ce qu'on a recueilli préférentiellement de cette pensée. Je regrette quelquefois que l'on oblitère la complexité de cette pensée. Tant mieux, elle est riche, elle est difficile, elle est complexe, elle est inaboutie. Heureusement, c'est une pensée qui donne à penser.
Cette année, en 2009, Simone Veil aurait eu 100 ans. Et c'est pour accompagner cette commémoration qu'un certain nombre de livres sont publiés ces temps-ci.
Oui, beaucoup, et c'est normal. C'est normal. J'avouerai, et je dois vous le dire franchement, ce livre que l'on m'a demandé, c'est une commande, là encore, de la part de Bayard, ça émanait de Marc Delaunay, et ensuite c'est Frédéric Boyer donc, qui a pris la relève et qui m'a demandé donc un recueil d'articles déjà parus, mais... Il voulait, c'était dans la continuité de la collection qui avait été initiée par Marc Delaunay, que ce fût à tonalité philosophique. J'ai donc recueilli, on m'a demandé de recueillir un nombre de textes limité, peu importe la date, peu importe l'origine, la langue, etc. J'étais complètement libre dans mon choix. Ça a été une très belle chance parce que ça m'a permis, je ne l'aurais pas fait sans cela, d'avoir un regard tourné vers l'arrière et de chercher. et de chercher pas simplement en France, mais ailleurs, car Simone Veil est mieux connue en France, avec une largeur d'esprit plus évidente, avec moins de restrictions que chez nous. Car en France, malheureusement, la pensée de Simone Veil, pendant de très très longues décennies, a été à la fois acceptée avec enthousiasme et vilipendée d'une manière aussi virulente. Mmh. Alors, ce que j'ai cherché à faire, c'est, un, rester dans le domaine philosophique, n'aborder le religieux que par le biais d'une conceptualisation donc philosophique. Et j'ai cherché surtout à respecter cette complexité, à montrer que rien n'allait de soi-même et que ce qui pouvait paraître comme une espèce de décision venant du ciel n'était pas du tout cela. Il a fallu qu'elle tâtonne, elle a cherché, elle est arrivée à des points extrêmes, des points difficiles où il a fallu qu'elle fasse des choix. Et des choix se sont effectués toujours dans le sens d'une très grande intelligence, naturellement, on ne le répétera jamais assez, et d'un approfondissement perpétuel.
Mmh. Il y a la complexité de cette pensée en mouvement,
oui.
Mais il y a aussi l'énergie qu'elle dégage à la lecture.
Vrai. J'aime bien que vous me posiez cette question, car en fait, le charme de cette pensée, c'est la vitalité qu'elle dégage et l'énergie qu'elle dégage. C'est cette puissance, la puissance du penser en tant que telle. Cette énergie absolument inusable pour l'exercice de la pensée. Songez que extrêmement affaiblie et allant mourir quelques semaines plus tard, alors qu'elle est dans une extrême jeunesse, elle écrit les pages les plus signifiantes, les plus profondes, les plus intellectuellement, les plus sensées, les plus ramassés. Donc c'est véritablement un phénomène de la pensée, un pur phénomène, oui.
C'est une tâche difficile de lire Simone Veil ?
Ah non. Enfin pour moi, ce ne l'est plus, vraiment. C'est-à-dire que c'est bien sûr que c'est difficile.
Vous dites que l'oxygène vient parfois à manquer.
Elle m'oxygène l'esprit et une fois que j'ai ouvert un de ses cahiers, je n'en sors plus. Et j'en sors heureuse, vibrante, plus forte, polyquestionnante, polyvalente et lancée dans toutes les directions. Non, c'est véritablement un auteur qui énergise. C'est absolument incontestable. Mmh.
C'est une entreprise de philosophie générale, mais en même temps, elle obéit, vous l'avez dit, à des préoccupations personnelles, en particulier politiques.
Ce furent d'abord des préoccupations politiques. Elle s'est lancée dans l'action. Elle a été, disons-le, pendant quelques années révolutionnaire, mais elle a été fort peu de temps, tout compte fait. Elle a avancé au pas de charge. Elle a songé qu'elle est partie en Allemagne en 1932, qu'elle est restée un mois à Berlin. Elle a beaucoup interrogé, elle a beaucoup lu, beaucoup regardé, elle a beaucoup compris. Elle a compris d'ailleurs à ce moment-là, dès août 32, que la révolution qui avait des chances de s'accomplir en Allemagne, puisque la classe ouvrière était très en avance par rapport à la classe ouvrière française. Elle a vu que ses espoirs ne seraient jamais comblés. Elle a compris qu'il se passait là quelque chose de très très grave. À la fois, elle pressentait donc une montée catastrophique de ce qu'allait devenir le nazisme, et en même temps un écroulement de l'espérance qu'elle mettait dans la révolution. Mmh. Ensuite, elle a donc rencontré Boris Souvarine, qu'elle a intégré l'équipe de la critique sociale avec enthousiasme, et elle a beaucoup écouté son mentor, qu'elle a d'ailleurs subjugué, et c'est là finalement que ce projet de révolution a tourné court en un certain sens, puisque Boris Souvarine s'était séparé donc de la pensée orthodoxe du marxisme-léninisme.
Donc elle a avancé au pas de charge, mais en prenant des voies de côté.
Oui. Des voies très étonnantes pour une femme aussi jeune. Ses combats étaient magnifiques. les combats qu'elle a menés, en particulier autour de l'année 36, avec cette correspondance tout à fait remarquable qu'elle a entretenue avec un directeur d'usine. Lorsqu'elle était à Bourges, avec une insolence rare, elle a salué toutes les lois qui ont de l'année 36 et avec une jubilation qu'elle contenait pas du tout d'ailleurs et qui a passablement exaspéré son correspondant. Mais c'est très beau de voir cette jeune femme au milieu des ouvriers dans une usine libérée participer de cette joie générale. Enfin, les ouvriers n'étaient pas possesseurs de leur usine, mais enfin, ils jouissaient d'une liberté, d'une reconnaissance de leur état. Et c'est vrai que c'était extraordinairement satisfaisant. Alors, il y a eu évidemment l'expérience d'usine. L'expérience d'usine, c'est pas tout à fait ce que l'on croit. Et justement, dans le livre, le recueil d'articles que j'ai fait paraître, il y a un article d'Éric Le Cerf que je trouve absolument remarquable. En réalité, son projet était philosophique. C'est-à-dire essayer de comprendre, en se mêlant à des ouvriers à la chaîne, et donc de participer à la vie au quotidien de ces malheureuses personnes, de comprendre si on pouvait, malgré tout, conserver une attention libre et conserver quelque chose qui s'appelle la dignité humaine. Et elle s'est rendue compte que c'était pratiquement impossible. Elle est tombée en esclavage, elle a cru qu'elle n'en sortirait jamais. Je crois que malgré tout, elle a réussi in extremis à conserver l'impression qu'elle était quand même une personne humaine. Mais enfin, elle est sortie de là totalement brisée. Et c'est ce qu'elle voulait expérimenter. Elle est sortie brisée, changée, totalement, profondément changée. Et c'est à la suite justement de cette épreuve effroyable, rompue à la fois physiquement et moralement, ses parents l'ont entraînée au Portugal et elle a eu là un premier contact avec le catholicisme, contact qu'elle raconte d'une manière magnifique d'ailleurs au Père Perrin dans cette fameuse lettre immense que le Père Perrin a appelée autobiographie spirituelle. Elle raconte tout cela avec des mots très pur, très simple, très beau. C'est même poétique, d'ailleurs.
Et là aussi, elle a pris une voie de côté, c'est-à-dire que chrétienne, elle est restée en dehors de l'Église.
Alors, c'est cela qui est tout à fait passionnant avec elle, parce qu'elle a eu donc, oui, une expérience absolument irréfutable. Ce serait idiot de dire qu'il ne s'est rien passé. Ça n'a pas été pendant ces trois contacts que l'on connaît, que l'on dit, même quand elle est allée à Solèmes suivre les exercices et la grande liturgie de la Semaine Sainte. Mais c'est quelques mois plus tard. Elle avait rencontré à Solèmes un jeune Anglais qui lui avait appris l'existence des poètes métaphysiques anglais. Elle a donc découvert George Herbert, et en particulier le poème Love. Et puis c'est quelques mois plus tard, vers novembre 38, on ne sait pas exactement, et après tout, qu'est-ce que ça peut faire, que récitant ce poème, qui est une merveille, plein de tendresse, plein de douceur, tout à coup, elle s'est rendue compte qu'il s'agissait peut-être d'elle et d'une rencontre de douceur qui la concernait, elle, particulièrement. Alors que faire une fois que vous avez en vous cette certitude? Mais qu'en faire? Elle était née dans une famille totalement agnostique. Elle ne voulait pas entendre parler de la religion, des questions de Dieu, parce qu'elle pensait que nous n'avons pas les outils adéquats pour pouvoir aborder cette question. Alors, on n'en parle pas. Finalement, c'est l'ici et maintenant qui est important. Et elle ne s'en est pas souciée du tout. Donc, si vous voulez, c'est un peu l'effet d'une surprise. C'est massif. C'est un événement considérable. Mais que faire de cela? Puisqu'elle ne connaissait rien de... sauf ce que ses études lui avaient appris à connaître, que ce qu'Alain pouvait dire dans son volume Les Dieux, ou tout ce qui était véhiculé de part et d'autre. Mais enfin, elle n'avait aucune connaissance ni de la doctrine, ni de la liturgie, encore qu'elle avait appris pas mal de choses à Solèmes. Mais enfin, elle, je dirais plutôt, et d'une façon plus importante, elle n'entrait pas dans ces catégories. Donc, pour notre chance à nous, elle a tout repensé à neuf. Elle était obligée de regarder les choses avec ses catégories à elle. Donc, c'était une manière, si vous voulez, de rajeunir violemment, finalement, une religion qui, en 40, il faut bien l'avouer, était parvenue à un stade de suffocation. On pourrait dire que c'était une religion étriquée, une religion d'interdit, une religion sans ouverture, une religion fermée.
Mmh. Il y a une question qui est souvent posée à propos de Simone Veil, c'est celle du judaïsme.
Bon, c'est vrai qu'elle elle refusait de se reconnaître juive. C'est assez aberrant. Elle dit que jusqu'à l'âge de 12 ans, elle et son frère n'étaient pas informés du fait qu'ils étaient juifs. Alors Sylvie Veil, sa nièce, que je connais fort bien et que j'estime énormément, trouve que c'est absolument ridicule. C'est quelque chose qui paraît totalement impossible. Elle n'y croit pas du tout. Mais elle le refusait véhémentement. Maintenant, elle véhiculait, si vous voulez, étant donné qu'elle était française, qu'elle avait suivi ses études à l'école normale, qu'elle avait été l'élève d'Alain. Elle avait donc on lui avait inculqué un certain nombre d'idées concernant l'Ancien Testament, les cruautés de Jéhovah, Dieu qui cautionne des massacres et des choses épouvantables. Et elle en avait acquis une détestation effroyable en ce qui concerne le Dieu de l'Ancien Testament. Elle n'était pas la seule d'ailleurs. Simone Pétremant, sa biographe, pensait comme elle. Bien, ça pourrait paraître quelque chose d'assez commun à l'époque. Enfin, c'est tout de même allé très très loin chez elle. Parce qu'on est arrivé finalement à ceci. C'est qu'elle s'est rapprochée tout de même beaucoup de l'Église catholique à Marseille. Quand elle, à la suite de l'Exode, elle est arrivée à Marseille. Elle a retrouvé là des amis. Pierre Honorat, qui était un mathématicien. Sa sœur Hélène Honorat, qui était très catholique. Elle écoutait ses propos. Ensuite, elle a fait la connaissance du Père Pérès en juin 41. Il la prend sous son aile. Bien. Elle essaie d'apprendre, elle apprend bien, pas très bien, elle est têtue, elle est difficile à convaincre. Mais le plus amusant, c'est que le père Perrin, lui, vous savez que le mémorial Yad Vashem l'a inclus dans les justes, parce qu'il avait à cœur de sauver tous les juifs qu'il pouvait sauver. Or, il est très heureux de recevoir Simone Veil, et il la reçoit comme juive, mais elle, c'est pas du tout ça qu'elle attend. Elle voulait, on lui avait dit que ce père dominicain pourrait l'aider à trouver un travail agricole. Elle est venue le voir pour un travail agricole. Avouez que c'est quand même assez piquant. Alors ils se sont disputés tous les deux, le père Perrin et elle, puisqu'il s'est rendu compte très très vite qu'elle éprouvait donc une hostilité vis-à-vis du judaïsme qui était très très, très étonnante, et rien ne pouvait la dissuader ou la faire changer d'avis. Ceci dit, je pourrais dire deux choses. D'une part, après plusieurs lectures bien trop rapides faites de l'Ancien Testament, en particulier une lecture faite au printemps 42, où elle se fait un malin plaisir de faire ressortir tous les actes de cruauté et toutes les choses qu'elle juge absolument effroyables dans ses textes, elle est quand même saisie. D'abord, elle possédait la Bible du rabbinat français, la note, et il y a des textes, évidemment, qui la retiennent, leur beauté, leur profondeur, elle-même, ces textes merveilleux. Et on s'aperçoit que de mois en mois, en réalité, elle est peut-être de moins en moins rétive. Elle accepte mieux. Alors, à dire vrai, elle est d'une mauvaise foi effroyable. Job, évidemment, le livre de Job, elle le place au nu. Mais Job n'est pas juif, n'est-ce pas? Ou bien un texte merveilleux d'Ézéchiel sur la ville de Tyr. Ah ben oui, mais Tyr, c'est le pays des Phéniciens. Donc elle est d'une mauvaise foi assez dramatique, je dois reconnaître. Alors, néanmoins, et je continue dans ce sens, quand je pense qu'elle s'est intéressée à la Bible des Septante, vous voyez le point, c'est tout à fait étonnant, puisqu'elle elle se jugeait grecque. Sa voix, c'était la voix grecque. Son Ancien Testament, c'était le testament, si je puis dire, entre beaucoup de guillemets, grec. Mais elle questionne, malgré tout, l'Ancien Testament par la voix grecque-juive. donc la septante. Et elle interroge d'ailleurs admirablement la notion d'eau vivante. Alors moi, j'ai été regarder dans la Septante, j'ai trouvé énormément de textes d'Ancien Testament, plus beaux les uns que les autres, relatifs à l'eau vivante, que ce soit Amos, Ézéchiel, les psaumes, et puis naturellement, oui, enfin, les lieux pullulent. Donc, elle marche un peu en crabe, vous voyez, hein, un peu de travers. Et au fond, j'ai l'impression qu'elle revient avec des exclamations de tel texte d'Ézéchiel, merveilleux, d'une beauté éclatante, etc. Et donc, elle est tout à fait capable, non seulement capable, mais elle respire cet air-là, quoi qu'on dise. Et d'autre part, et bon, ça c'est une interprétation qui est mienne, mais Sylvie Weiss est plutôt de mon avis, c'est-à-dire la nièce de Simone. Elle avait dans ce sens très violent, très fort de la justice, et cette chose inscrite en elle, du souci de l'opprimé, elle avait quelque chose de la tzedaka, vous voyez. Je pense qu'elle était inscrite en elle ce sceau de l'âme juive que moi je me fais un plaisir de reconnaître.
Mais la situation des juifs au début des années 40,
là, c'est tout à fait grave. C'est tout à fait grave parce qu'elle est allée beaucoup trop loin. Elle a prononcé des mots. Encore qu'elle les ait prononcés, d'autres auraient pu le faire, mais le moment de les dire, c'est ça qui est insoutenable. Voilà, donc je ne sais que vous dire. C'est une faute grave. Je ne sais pas si on peut lui pardonner, je n'en sais rien. Je ne me pose pas vraiment la question, simplement je reconnais que c'était insoutenable.
Ce que vous montrez dans votre introduction à ce livre, Simone Weil, Sagesse et grâce violente, qui est publié chez Bayard, c'est que dans tous les domaines, toujours, Simone Weil a voulu recommencer, partir de zéro. Ça a été vrai pour le christianisme. C'est vrai aussi pour le regard qu'elle porte sur la science.
Ah, oui, c'est juste. C'est juste. Elle se rebellait violemment contre la science contemporaine. Évidemment, c'était dans le droit fil de l'amour inconditionnel qu'elle portait à la pensée grecque. Et à ce sujet, justement, il y a eu un retournement tout à fait remarquable dans les derniers mois de son séjour à Marseille, où, et c'était le printemps, l'hiver et le printemps 42, elle sait qu'elle ne va pas partir dans les semaines qui vont suivre pour les États-Unis, que finalement la question des visas se montre plus compliquée qu'on ne le pensait. D'autre part, elle pensait pouvoir continuer à travailler un travail dans une ferme, et ce s'est révélé impossible. Donc elle s'est retrouvée assez brusquement, libre, d'une certaine liberté, c'est-à-dire dans l'attente d'un départ dont on ne savait pas quand il aurait lieu, et sans projet d'avenir aucun. Alors, elle est redevenue, si vous voulez, la formidable normalienne qu'elle avait été. Et elle se replonge dans les textes de la Grèce ancienne, mais pas seulement. Ce sont aussi les textes de philosophie indienne, c'est aussi d'autres traditions, parce que finalement, son fil, le fil de sa pensée, c'était que sous cette tutelle merveilleuse de la pensée grecque, il y avait la possibilité de faire se rejoindre d'autres courants spirituels ou même des courants de sagesse traditionnelle, y compris d'ailleurs des courants de sagesse tout à fait populaires. Donc elle a mis en commun, si vous voulez, tout un ensemble de traditions. Et comme vous le disiez tout à l'heure, elle repart toujours au texte. Donc elle fait des recherches tout à fait extraordinaires dans toutes les directions. Alors pour nous, l'équipe qui essayons de la publier, c'est un travail du diable, parce qu'il faut qu'on la suive absolument sur toutes ses voies. Alors, il se trouve que, sur la voie grecque, qui est la voie qu'elle préconise, et qui est pour elle, si vous voulez... la Grèce de la grande époque et les grands textes, à la fois les textes de Platon, Homère ou les tragiques. Mais c'est presque un Nouveau Testament bis, ou un premier Nouveau Testament, si l'on peut dire. Et à sa manière, qui est une manière tout à fait remarquable, où la chronologie ne lui importe pas du tout. Ou au contraire, elle écrase la chronologie. Ou au contraire, plus on remonte dans le temps, plus, pense-t-elle, on arrive à une révélation plus pure. Donc, Platon était évidemment son dieu à l'époque, mais Platon, Aristote dit qu'il était essentiellement pythagoricien. Alors, la voilà qui, en remontant, interroge les quelques rares fragments qui ont subsisté de la doctrine pythagoricienne. Donc, elle se plonge dans les fragmentes des Socratiker et elle examine cela de très très près. Elle regroupe donc les fragments pythagoriciens, essentiellement de Philolaos. Et tout à coup, elle trouve là, et je rejoins donc la question que vous posiez concernant les mathématiques, elle trouve là une clé, c'est-à-dire une possibilité d'intelligibilité remarquable entre un système scientifique qui est finalement à l'origine de la grande science grecque, c'est-à-dire du miracle grec, et en même temps donc la jointure entre la science grecque et la théologie, ou du moins les recherches religieuses et spirituelles. Autrement dit, elle trouve dans ce système cosmo-théologique une piste admirable à frayer qui lui permet de s'engager dans une direction dans la seule direction selon elle qui est susceptible de faire comprendre quelque chose du mystère du Christ. Le Christ, à la fois homme et Dieu, donc se trouvant entre, si vous voulez, en tant que moyenne proportionnelle, la moyenne proportionnelle étant finalement cette clé du système de la doctrine pythagoricienne, la moyenne proportionnelle qui unit des opposés ou même des contraires. Mmh. Hein? Alors, elle n'est pas pour rien la sœur d'un grand mathématicien, elle a l'esprit façonné par la rigueur mathématique, à la fois à l'exemple de Platon, mais même par l'exemple familial tout simplement. Alors elle pose des équations. Homme, homme-dieu, égale homme-dieu, Dieu. Donc la moyenne proportionnelle, c'est le Christ, Dieu et homme. Elle part comme ça, elle fonctionne de cette façon. Et pour elle, c'est avec, j'allais dire, presque une joie indicible qu'elle se précipite dans cette voie-là. Et ça donne donc les dernières pages des intuitions préchrétiennes qui s'appellent à propos de la doctrine pythagoricienne. Ce sont des pages qui lui sont venues, en une grande ruée, sans rature, vous voyez, et c'est proprement génial. Dire que ça correspond exactement à ce qu'on pourrait attendre d'une christologie, je ne pense pas, mais c'est génial.
Florence de Lucie a dirigé le volume collectif Simone Veil, Sagesse et Grâce Violente aux éditions Bayard. Du jour au lendemain, Julien Douminc, Angélique Thibault, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.